Bonjour, frères et sœurs de l'Assemblée de Cap-de-la-Madeleine et tous les YouTubers qui sont avec nous. Souhaitons la bienvenue en ce dimanche, le 5 avril, pour la prédication dominicale. Il est toujours intéressant d'ouvrir la parole de Dieu, toujours réconfortant d'aller chercher ce que Dieu veut nous parler, veut nous dire à travers sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir du psaume 131. Et nous allons commencer par le lire. Psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Je l'ai comme un enfant sevré. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Les psaumes sont une grande source d'enseignement, de prière, de méditation. Les Juifs appelaient ces écrits « livres de louange ». Nous apprenons beaucoup sur Dieu et sur sa relation avec sa créature. On doit se rappeler que ce psaume particulier, 131, fait partie de ce que les Juifs devaient lire en route pour aller adorer au temple. Il s'appelle les psaumes du pèlerin. Donc, un des buts de ces psaumes est d'aider à faire une introspection, jeter un regard sur son cœur, afin d'ajuster notre vie intérieure dans le but d'adorer Dieu convenablement. Psaume très court, 3 versets, mais qui touche un aspect essentiel de la vie chrétienne. Essentiel au point que si ces aspects ne sont pas dans la vie chrétienne, il n'y a pas vraiment de vie chrétienne. Le combat de David se situe au niveau des relations. La relation avec son prochain et la relation avec son Dieu. Juste avec le verset 1, nous pouvons faire un lien avec les versets qui se retrouvent dans Matthieu chapitre 22, versets 38 à 40, lorsqu'un pharisien approche le Seigneur Jésus-Christ et il pose la question, « Quel est le plus grand commandement de toute la loi? » Et verset connu, Christ lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » Et c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Au verset 1, David nous livre son cœur au grand jour. Non seulement il fait un examen de conscience, mais il écrit ses combats. Et le cheminement qui conduit à la victoire dans ces combats. Nous devrions lire au verset 1, « Je ne dois pas avoir un cœur enflé. Je ne dois pas avoir des regards hautains. Je ne dois pas m'occuper de choses trop grandes pour moi. » Un cœur enflé. Un cœur rempli de lui-même et satisfait en lui-même. Quel genre de cœur avait David lorsqu'il regardait Bathsheba? Ou Uri, son mari? Quel genre d'orgueil avait-il dans son cœur lorsqu'il décida de faire le dénombrement du peuple, même si Dieu l'avait interdit? Avoir le cœur enflé et le regard hautain est loin de respecter la deuxième partie du plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Posons-nous la question. Avons-nous aussi cette tendance à laisser nos cœurs enflés? De lever le regard sur certains types de personnes parce qu'ils ne cadrent pas dans notre ligne de pensée? Est-ce que nous aimons notre prochain avec la vision que Dieu a de l'amour? Qui ne fait exception de personne. ou si nous aimons en mettant nos conditions, nos règles. Lui, oui, lui, non. Est-ce que ça nous arrive? Voilà un combat dans le cœur de David. Et soyons honnêtes, ça peut aussi être un de nos combats. Lorsque nous examinons notre cœur avec l'influence de l'esprit. David s'en est rendu compte par l'intervention de Nathan. Il a confessé son péché. Vous lirez le psaume 51. Il s'est repenti. Il admet que le cœur d'un enfant de Dieu ne devrait pas s'enfler et que les regards devraient plutôt être des regards d'humilité et de modestie. Si nous faisons l'historique de toutes les guerres du monde, nous verrions qu'ils originent tous d'un cœur enflé. Mais David a encore un autre combat. Et c'était sa relation avec Dieu. Lorsqu'il mentionne qu'il ne voulait pas s'occuper des choses trop grandes, trop élevées pour lui, il parle de laisser le contrôle de sa vie à Dieu. Il ne veut pas être sur le trône de sa vie. Il doit laisser cette place à Dieu. Voilà le sens de cette phrase. Je ne veux pas m'occuper des choses trop grandes pour moi, trop élevées pour moi. Je veux les laisser à Dieu. Sa vie maintenant appartient à Dieu. Lorsque je m'inquiète sur ce qui pourrait arriver dans l'avenir, ce sont des choses trop grandes, trop élevées pour moi. Le plus grand commandement de Dieu est, nous l'avons cité tout à l'heure, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais comment on aime Dieu? Je sais comment aimer les êtres humains. Je sais comment aimer mon épouse. Je sais comment aimer mes enfants. Je sais comment aimer mes frères et mes sœurs. Mais est-ce que je devrais envoyer des fleurs à Dieu? Est-ce que aimer Dieu, c'est d'aller à l'assemblée? Est-ce qu'aimer Dieu, c'est rendre service? Comment Dieu lui-même désire-t-il être aimé? Si ce n'est qu'en lui faisant confiance. Hébreux 11:10 nous dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans qu'on ait une confiance en Dieu, sans que nous ayons mis notre confiance en Dieu, il est impossible de lui plaire. La confiance que nous mettons en lui est au même niveau que notre amour. Nous pouvons aimer mal Dieu. Nous devons apprendre à aimer Dieu. Oui, oui, j'ai des choses à m'occuper. Mes pensées, mon attitude, mon cœur, mon service pour Dieu et pour mes frères. Mais si je m'inquiète de ce que je ne contrôle pas, c'est comme si je disais à Dieu, je ne te fais pas confiance et je dois m'occuper de choses qui me dépassent. Laissons à Dieu le crayon de notre vie pour qu'il en écrive le cours. Au lieu de lui laisser juste l'efface pour qu'il en efface les erreurs. Frères et sœurs, comment aimons-nous Dieu? Comment pouvons-nous prouver que nous aimons Dieu? David a trouvé la solution face à ces deux combats. Il ne veut plus être arrogant. Il ne veut plus être indépendant. Un enfant de Dieu n'est ni arrogant, ni indépendant. Un enfant de Dieu dépend de Dieu, met toute sa confiance en Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas hautain. Il n'est pas au-dessus de tous. David réalise que cette nouvelle attitude, cette nouvelle manière de penser et d'agir conduit à des résultats. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Dans l'original, cette phrase est prononcée comme un serment, comme un engagement. David voulait s'y engager fidèlement, s'engager à réduire au silence le bruit, le tumulte. Il devait faire taire certains de ses désirs, ses peurs, ses opinions, ses angoisses, ses plans, ses irritations. Cela devait demander une grande attention, une grande concentration pour que dans certaines situations, il soit capable de se rappeler l'engagement qu'il a pris avec son Dieu de calmer son âme. Face à cet engagement, il peut l'illustrer et l'image d'un enfant sevré lui vient à l'esprit. David nous révèle son sentiment. Son âme est comme un enfant sevré sur les genoux de sa mère. Ceux qui ont vécu l'expérience, ou même juste, qui, si vous avez regardé un enfant emmailloté et calme, satisfait, comblé, quelle image de paix et de calme cela représente. Hélène m'a rectifié au niveau de la signification du mot « sevré ». J'étais dans l'erreur en pensant que David parlait d'un enfant calme après qu'il ait été nourri par sa mère. Mais un enfant sevré, c'est un enfant qui a quitté le sein maternel. Et sa satisfaction n'est pas dans ce que la mère peut apporter, mais dans la seule présence de sa mère qui lui apporte réconfort et soutien et calme toute sa personne. Cette image a été pour David, et elle est aussi pour nous, la position que nous déciderions de prendre sur l'amour que nous devrions porter à notre prochain et la manière que nous allons aimer Dieu. Cette position nous permet de s'engager dans le calme et la tranquillité. Je serai plus satisfait par la présence de Dieu que par ses bénédictions. Comme un enfant sevré. C'est ici l'expression d'une paix parfaite dans le sacrifice et d'un abandon plein de confiance et de soumission entre les mains de Dieu. Le psalmiste a remplacé le focus des choses grandes et extraordinaires, des choses trop grandes pour lui, qu'il recherchait autrefois, par la grâce de Dieu qui lui suffit. Et au verset 3, David voudrait que le mouvement de son cœur devienne un mouvement national. Comme Dieu voudrait que ce mouvement aussi soit dans notre cœur. Après tout, dans Romains 2, 28-29, Dieu fait de nous des Juifs dans le cœur. À plusieurs reprises, Dieu nous demande de réfléchir. C'est ce que nous sommes, dans notre cœur. Et cette réflexion est souvent un travail seul à seul avec Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église que notre cœur soit tout entier à Dieu. Mais l'Église en récoltera les fruits. À la suite de ces réflexions, à la suite de ce que nous aurons trouvé en dedans de nous, il nous demande un engagement. Il nous demande un engagement comme lui-même s'est engagé à notre égard. David s'est engagé et il a senti ce calme et cette tranquillité. Dieu désire que l'on soit dans ce calme et cette tranquillité, Dieu désire que l'on soit là. Dieu désire que l'on s'y engage. Le coût est rien à côté des prix, de ce que ça rapporte. Que le Seigneur bénisse ces paroles et je voudrais terminer par un mot de prière. Merci Seigneur, car ta présence est une source de calme et de tranquillité. Ta présence, ta dépendance, Seigneur, être dépendant de toi, nous donne toute la raison pour laquelle nous pouvons être sur cette terre, que nous pouvons t'obéir et te respecter et t'aimer. Seigneur, nous te demandons comment. Comment, montre-nous comment t'aimer. Montre-nous comment tu désires être aimé. Montre-nous, Seigneur, et que l'on puisse passer à l'action face à cela. Nous te remercions, nous te rendons gloire de nous garder, de nous protéger, même dans des situations troubles comme nous vivons, que l'on soit toujours ton enfant et que tu sois toujours celui qui trône, celui qui règne sur ton trône dans notre vie. Nous te remercions et nous te rendons gloire par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.